Europe Midi.
Romain Desarbres.
Europe Midi, spécial verdict du procès des attentats islamistes du 13 novembre. On y revient avec Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, avec Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, rescapé du Bataclan, et avec Martin Méchin, avocat d'un des accusés condamné à 10 ans de prison pour avoir recherché des armes pour les terroristes. On va y revenir. 10 mois de procès, c'est historique. Déjà, je voulais entendre vos avis sur ce verdict. Dans le journal, Gladys Laffitte disait que c'était un verdict juste, hein, selon vous, hein, c'est ce que vous avez
équilibré.
Dit, Gladys, équilibré. Arthur Desnouveaux, comment vous le qualifieriez-vous, ce verdict ?
Compréhensible et justifié. Il y a quand même 120 pages qui ont été données par la Cour pour le justifier, et ça c'est important en termes de pédagogie pour nous les parties civiles.
C'est l'avis général des victimes et des familles de victimes, ce que vous ressentez ?
2500 parties civiles, 2500 avis, mais toutes celles à qui j'ai parlé m'ont fait part peu ou prou de ce sentiment-là.
De ce sentiment-là. Et équilibré, très dur, sévère envers Abdeslam, plus équilibré, plus nuancé pour les autres.
Sévère mais juste, c'est toujours pareil.
Hein.
C'est pas parce que la peine est très très dure qu'elle est injuste. Et en fait, ça a été ça le sentiment pour ceux qui ont suivi le procès.
Maître Méchin, votre client est Ali El Haddad Assoufi.
Tout à fait.
Il est belge, il a été condamné pour avoir recherché des armes.
Oui, ce qu'il a toujours contesté.
Ce qu'il a toujours contesté. 10 ans de prison pour votre client. Vous êtes satisfait, j'imagine, puisque 16 ans avaient été requis.
Oui, alors sur la peine à laquelle notre client est condamné, oui, on est satisfait. Maintenant, sur le verdict en lui-même, je dirais de manière peut-être un peu provocatrice que c'est un verdict qui n'est pas très courageux, mais je m'en explique immédiatement. C'est-à-dire qu'en réalité, la Cour a repris point pour point l'intégralité des éléments à charge retenus par le parquet national antiterroriste et même est allé au-delà sur certains points. C'est-à-dire qu'on a vraiment une motivation qui est extrêmement dure, extrêmement sévère. Et d'ailleurs, à tel point que, à l'écoute de la feuille de motivation, alors que les peines n'avaient pas encore été annoncées, on s'est demandé si on avait assisté à la même audience que la Cour. Et donc ça, on trouve que c'est pas très courageux et juridiquement, il y a plein de choses à en dire. Néanmoins, et évidemment, ça nuance très fortement ce que je viens de vous dire, c'est un verdict qui est assez intelligent. Il est assez intelligent parce que, en réalité, les peines sont suffisamment mesurées pour que on s'assure quasiment qu'il n'y aura pas d'appel. C'est-à-dire que je mets ma main à couper qu'il n'y aura pas d'appel du parquet pour aucun des accusés, même ceux, alors comme nous, qui avons bien baissé les réquisitions, je suis quasiment certain que le parquet ne fera pas appel.
Vous n'allez pas faire appel ?
On a 10 jours pour le faire, il faut qu'on en rediscute avec le client, mais c'est effectivement probable qu'on ne fasse pas appel. Et du côté des accusés, je pense que peu feront appel, peut-être Abdeslam parce qu'il est condamné au maximum, mais comme ça baisse quasiment pour tout le monde, je pense que c'est un verdict en réalité très politique, mais ce qui n'est pas très étonnant sur un procès qui a été politique dès le début.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il faut satisfaire tout le monde, et puis il faut éviter de repartir sur un autre procès de 10 mois, parce que ça serait l'enfer en réalité. Ce serait l'enfer pour l'État de réorganiser ça, ce serait l'enfer pour les parties civiles de repartir, j'imagine, sur un procès de 10 mois, et donc il fallait, à mon avis, absolument éviter un nouveau procès. Et s'il y en a un autre, ce sera peut-être pour un seul accusé. Et donc, évidemment, ça ne sera pas la même ampleur et ni les mêmes enjeux.
Arthur Desnouveaux, c'est un sentiment que vous partagez, un procès politique ou c'est juste la justice qui a parlé face à l'abominable. Il y a eu 130 morts le 13 novembre 2015, dans la nuit du 13 au 14. 131 même, puisqu'il...
Ou 132, c'est ce que laisse entendre en tout cas la motivation. Alors, procès politique, je ne sais pas. Verdict politique, oui, je rejoins Maître Méchin. Mais dans le sens politique, pas la guerre des partis, mais dans le sens essayer de trouver un point d'équilibre qui satisfasse tout le monde et qui minimise en effet le risque de se retrouver face au même procès, la même durée une deuxième fois.
Gladys Laffitte, 6 personnes condamnées à la peine la plus lourde du droit français, hein, la perpétuité incompressible, c'est-à-dire la perpétuité réelle. En réalité, au bout de 30 ans, la justice peut commencer à se pencher sur le cas des personnes qui sont condamnées à cette peine. Parmi ces 6 personnes, il y a 5 accusés présumés morts, et puis il y a Salah Abdeslam. On ne sait pas si Salah Abdeslam va faire appel ou pas.
Non.
Mais on va dire, il pourrait faire appel, il n'a rien à perdre.
Alors ça, c'est ce qu'on peut penser de l'extérieur.
C'est ce qu'on peut penser de l'extérieur.
En tout cas, ces avocats ont 10 jours pour faire appel. Je pense qu'ils vont discuter, ils vont le voir beaucoup. Tout ce que moi j'ai pu observer de ce qui s'est passé hier à la lecture du verdict, c'est qu'il n'avait pas l'air content. Il avait les bras croisés, il était adossé à sa chaise, le visage assez fermé. On peut comprendre qu'une peine de perpétuité incompressible, quand elle est prononcée à son encontre... ça fasse pas plaisir, entre guillemets. Donc, c'est vrai que si appel il y a pour lui, il n'a rien à perdre, effectivement, puisque c'est la peine la plus lourde du code pénal. En revanche, on verra pour les 5 autres qui sont présumés morts, ça s'apparente plus à une mesure de sûreté, en réalité, puisqu'on n'a pas de preuve formelle que ces 5 personnes sont mortes sur zone. Donc, c'est si un jour ils réapparaissaient dans le paysage français,
la peine
il y a une peine contre eux, et voilà.
Abdeslam va finir sa vie en prison.
C'est impossible à dire. En fait, la perpétuité incompressible, pour vulgariser, c'est vrai qu'à partir de 30 ans et sous certaines conditions, c'est pas à partir de 30 ans pile on sort, on peut faire une demande d'aménagement de peine. Ça veut pas dire non plus que cette demande va être acceptée. Il peut peut-être faire 150 demandes d'aménagement de peine et qu'elle ne soit jamais acceptée. Le seul exemple un peu grand public qu'on ait, c'est Michel Fourniret qui avait été condamné à cette peine, sauf que lui, il avait déjà 70 ans. Donc il est décédé d'ailleurs récemment en prison. Donc aujourd'hui, Salah Abdeslam, il a 32 ans. Donc, c'est impossible de dire s'il finira ses jours en prison ou non.
Arthur Desnouveaux, comment vous la vivez, cette peine de Salah Abdeslam? Qu'est-ce que vous êtes dit hier soir?
C'est pas simple. Moi, ça faisait partie vraiment des points que j'attendais dans le verdict. J'avais entendu les réquisitions du parquet national et je comprenais pourquoi cette peine. J'ai entendu les avocats de Salah Abdeslam que j'ai trouvé brillants sur le sujet, sur le fait que c'était une sorte de peine de mort déguisée, une peine de mort blanche.
Une peine de mort lente, bon.
Voilà, j'entends les deux. Après, c'est une peine qui existe dans notre code pénal, qui est validée par la Cour européenne des droits de l'homme, donc on peut la mettre. Et la gravité de ce que la Cour a considéré que Salah Abdeslam avait fait le justifiait. Donc voilà, je l'accepte. C'est pas forcément pour moi la meilleure manière de se dire que notre société fait face au terrorisme, parce que c'est quelque part dire qu'on a un tel monstre qu'on ne pourra jamais rien en faire. Et j'aurais aimé plus d'optimisme, mais c'est justement peut-être le boulot des juges d'être réaliste.
Jewed est avec nous. Jewed, 29 ans, vous nous appelez des Hauts-de-Seine. Bonjour Jewed.
Oui, bonjour.
Vous êtes juriste et vous avez choisi d'appeler le 3921 parce que vous vouliez réagir. Dites-nous, vous dites que dans ce procès, la justice a été exemplaire.
Oui, tout à fait. Pour moi, d'abord la justice, hein, c'est ce que j'expliquais hors antenne, c'est d'abord l'ensemble des acteurs, les magistrats, les avocats, et même tous les auxiliaires de justice qu'on oublie. Ces 10 mois de procès, ça a été très très long. Et je voudrais aussi un peu saluer la difficulté de la mission de Maître Renin, par exemple, et de l'ensemble de la Défense. Cette mission qui est effectivement de mettre en avant et de faire en sorte que l'on puisse s'exprimer, que les condamnés puissent, enfin, les accusés puissent s'exprimer. C'est toujours un exercice difficile. Il y a un an, on se posait la question de savoir si Salah Abdeslam répondrait à la justice. Aujourd'hui, on a eu un certain nombre de réponses. Et ça, on le doit effectivement au travail de la justice. Donc ça a fonctionné. Et puis ensuite, est-ce qu'elle a été à la hauteur? Pour moi, la hauteur de la justice, c'est sa dignité. C'est sa dignité à statuer de manière juste, en accordant à tout homme sa part d'humanité, et de rendre une position en fonction des faits, de se prononcer en fonction de ce qu'elle a entendu, mais aussi des éléments qui sont à sa charge. Donc pour moi, la décision, à la fin, ça aboutit à quelque chose qui est compréhensible. 30 ans de réclusion criminelle, je pense qu'aux yeux de l'opinion publique, c'est compréhensible, c'est entendable, c'est justifié. Et c'est à la fois aussi également exemplaire dans le déroulement. 10 mois de procès, c'est quelque chose de long. Elle a pris le temps pour ne pas se tromper, ou en tout cas minimiser le risque de se tromper et d'être le plus juste. Donc pour moi, c'est une véritable ode à notre République, une véritable ode à notre état de droit, ce qu'il a pu se passer dans le déroulé de ce procès.
Ode à la République, ode à l'état de droit. Merci beaucoup, Jewed. Merci d'avoir appelé le 3921. On va continuer évidemment à revenir sur ce procès, sur le verdict d'hier soir, sur les 10 mois, sur les sentiments des victimes envers leurs bourreaux, envers les accusés, les condamnés. Restez avec nous, 3921, on est avec Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, on est avec Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan, avec Maître Martin Méchin, avocat d'un des accusés qui a été condamné hier soir. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi spécial, verdict du procès des attentats du 13 novembre. On y revient avec Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, rescapé du Bataclan, et avec Maître Martin Méchin, avocat d'un des accusés, condamné à 10 ans de prison pour avoir recherché des armes pour les terroristes. On était à l'instant avec Jewed, qui nous a appelé au 39-21, qui disait que ce procès s'était, selon lui, très très bien passé, que la justice avait répondu à toutes les attentes avec ce verdict. Il disait que c'était une ode à la justice, une ode à la République. Maître Méchin, vous êtes d'accord? Vous êtes sur la même ligne?
Pas vraiment. En réalité, c'est un procès qui s'est passé du mieux qui pouvait se passer, compte tenu de l'ampleur, des enjeux, etc. Mais c'est un procès qui a quand même été très particulier, notamment par rapport à un procès habituel ou un procès normal. Et il ne faudrait pas que ce type de procès devienne une espèce de norme et que on finisse par admettre que il faut absolument que le procès serve à la société entière comme une espèce de catharsis sociétale, parce que ça ne doit pas être le cas. Alors, on est dans un cas très particulier. Mais je crois qu'il faudrait rester dans ce cas particulier.
Mais les accusés, pour bien comprendre, les auditeurs comprennent, et accessoirement que je comprenne aussi, les accusés ont été jugés selon la loi française. Je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir.
Évidemment que les accusés ont été jugés avec la loi française. Bon. C'est quand même la moindre des choses.
Et donc
Alors, sur l'organisation du procès, alors on pourrait en dire énormément de choses, mais pour donner un exemple... On a une semaine sur 10 mois qui ont été consacrés à l'examen de la personnalité des accusés. On avait, sur une seule après-midi d'audience, donc à partir de midi et demi jusqu'à, on va dire, 19h, l'examen de 4 personnalités d'accusés. À côté de ça, on a eu des après-midi entières qui étaient consacrées à des auditions de sociologues, de chercheurs. On a consacré une journée entière à l'audition de François Hollande. Et donc, on a pu avoir l'impression... Peut-être que je me trompe, mais on a pu avoir l'impression que le procès allait au-delà de ce qu'il est censé faire et que peut-être on aurait pu encore s'intéresser davantage aux accusés.
C'était pour éclairer la cour, non ?
Oui, mais alors je crois que... Alors, moi, je suis avocat de la défense, donc j'ai évidemment un parti pris, mais je pense que du côté des partis civils, il y a eu de nombreux regrets aussi à cet égard, et du côté des journalistes aussi. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, a dit « Mais que viennent faire ces témoins ? Ils ne savent rien du dossier, ils ne connaissent rien des accusés. Ils viennent nous raconter, on a eu Sifaoui qui est venu nous raconter qu'il y a 20 ans, il avait...
Mohamed Sifaoui, spécialiste de l'islam.
Il avait intégré des réseaux islamistes. Ok, il y a 20 ans, en Algérie, ça n'avait rien à voir avec les réseaux de Daesh. Donc, ok, on n'a rien appris en réalité. Donc, on a perdu du temps, mais... Voilà, c'était une réserve que je veux mettre sur la tenue globale de ce procès, on va dire.
La Cour voulait aller au fond des choses, tout étudier. Gladys Laffitte, c'est vous qui avez suivi ce procès pour Europe 1.
Oui, alors pour le coup, moi je ne suis pas partie au procès, mais des procès j'en ai fait. Et c'est vrai que des sociologues qui viennent témoigner, j'en ai rarement vu. On oublie que le procès, c'est le procès des accusés. Avant tout, qu'on juge des hommes et qu'on juge leurs responsabilités et les charges qui pèsent contre eux. Donc là, c'est vrai que sur cet aspect des témoins un petit peu extérieurs, on va dire, c'était parfois surprenant. En revanche, moi, le seul bémol que je peux mettre par rapport à d'autres procès d'assises, c'est que je trouve qu'on a peu entendu les accusés au final. J'ai trouvé que ça manquait de spontanéité. Un procès d'assises, c'est aussi, on entend tel accusé qui dit quelque chose, on fait lever son voisin pour entendre son point de vue. J'ai trouvé que ça, c'était un peu trop saucissonné. Après, évidemment, vu la longueur, c'était obligatoire d'être planifié, d'être organisé. Mais c'est vrai qu'il y avait un découpage qui était très lent et sur 10 mois, on a quand même peu entendu les accusés.
Au début, Abdeslam était très agressif.
Oui.
Oui.
Il l'explique d'ailleurs, il l'a expliqué aussi lors de ses derniers mots qui étaient lundi matin. Il explique qu'après 6 ans d'isolement, de conditions de détention qu'il a décrites, qui sont objectivement inédites et dures, il s'est un peu retrouvé comme un animal face à tous ces yeux qui étaient tournés vers lui. C'était le choc social, c'est ce qu'il a dit. Donc ça, c'était le premier jour. Et puis au fil du temps, c'est vrai que son attitude a changé, elle a été évolutive, il s'est apaisé, ça c'est ce qu'il dit aussi. Et je pense que tous ici, on a vu son évolution.
Et les victimes, Arthur Desnouveaux, avec nous, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être, vous, assez entendu ?
Nous, on a été extrêmement bien entendu. On a eu tout le temps qu'on voulait. On a même pu parler de choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le fait de juger les accusés Et moi, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Je pense qu'il faudrait sûrement, dans le cas d'événements de masse comme ceux-là, qui impactent autant la société, articuler le procès pénal avec d'autres choses, peut-être une commission parlementaire moins hâtive que celle qu'on a pu faire, peut-être avec des choses de justice restaurative, peut-être aussi avec des enquêtes administratives sur certains points. Mais nous, en tout cas, on a été bien entendu. Notre peur et le procès d'intention qu'on avait fait à ce procès un peu au début, c'était que cette parole des parties civiles écrase tout. Et c'est aussi là que l'individualisation des peines à la fin a bien fonctionné. Mmh. Parce que finalement, si les accusés, on peut parler, c'est pas à cause de la place dévolue aux parties civiles. C'est clairement pas ça.
Non. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu.
Non, c'est parce que le calendrier n'était pas fait comme ça, mais ça, c'est le choix du président et de l'audiencement.
Ce que disait Gladys Laffitte, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'en cour d'assises, ce qui compte, c'est l'oralité des débats, ce qu'on appelle l'oralité des débats. Et en réalité, alors bien sûr, il y a un dossier papier, on se réfère au dossier papier, mais en réalité, tout doit être débattu à l'audience. Et c'est vrai qu'il est extrêmement important et très souvent, c'est très rare qu'en fait, à un procès d'assises, il ne se passe pas des événements qui permettent d'ajouter des choses par rapport au dossier papier. Et là, c'est vrai qu'on a manqué de cette spontanéité, de cette oralité des débats parce que le dossier est tellement tentaculaire, parce qu'il y avait tellement d'accusés, parce qu'il y avait un tel poids. Donc c'est un regret. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que le président aurait pu faire mieux? Je n'en sais rien, mais c'est un regret, c'est une certitude.
Arthur Desnouveaux, qu'est-ce que vous avez ressenti envers les accusés? C'est une question qu'on est très nombreux à se poser. Et si j'avais été dans la salle du Bataclan, qu'est-ce que j'aurais ressenti envers Abdeslam, envers Mohamed Abrini, envers les autres accusés qui ont rendu possible cette horreur, cette barbarie? Bon, les mots, on les connaît.
Bah, la réalité, c'est que si vous aviez été dans la salle du Bataclan comme moi, vous auriez eu 6 ans et demi pour déjà essayer de vous reconstruire, faire beaucoup de psychothérapie, prendre des anxiolytiques, et qu'en fait, vous vous rendez assez vite compte que c'est pas en tournant une forme de colère vers les accusés que vous allez avancer. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec le temps qui passe, eh ben, vous apprenez à sortir cette colère et à déléguer le fait d'avoir un jugement sur ces gens-là à des professionnels, à la justice, à vos avocats. Et donc moi, j'ai du mal en fait à avoir le moindre sentiment dans un sens ou un autre envers ces gens-là. Je les sors un peu du champ, pas de l'humanité du tout, mais des gens envers lesquels je ressens quelque chose. Et donc ni colère, ni compassion spécifique.
Ni haine.
Alors dans mon cas, non, ou du moins rarement. Pour être tout à fait honnête. Moi, ce « vous n'aurez pas ma haine », qui d'ailleurs n'est pas « vous n'avez pas ma haine hein, », il faut bien entendre le distinguo, je trouve qu'elle n'a peut-être pas été assez relayée dans les médias. Moi, je le dis très franchement, alors je suis désolé, je prends l'exemple d'un accusé spécifique, mais quand Mohamed Abrini a dit « les viols sur les yézidis, c'est un projet de natalité », je vous avoue que moi, j'avais la haine à ce moment-là. Mmh. Voilà. Et je suis rentré chez moi très en colère en me disant, et c'est pas facile à dire, hein, pourquoi il n'y a plus la peine de mort? Et puis, bah, j'ai réfléchi et je comprends pourquoi. Est-ce qu'il ne faut pas céder à ce moment-là? Mais donc, non, je ne ressens pas de haine envers eux, à part très rarement.
La peine de mort, elle n'existe plus depuis 40 ans maintenant. Là, mais dans les débats, elle revient. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi elle n'est pas là?
Je vais être très clair. Pour moi, il est inenvisageable de débattre de la peine de mort.
Et je
vous le dis très clairement, c'est inenvisageable de débattre de la peine de mort.
Il n'y a pas de débat. Mais dire qu'en France, personne ne prononce le mot, ça serait être totalement aveugle ou sourd ou malhonnête. Gladys Laffitte.
Oui, je voulais rajouter aussi quelque chose que j'ai pu observer entre les accusés et les parties civiles. Il y a eu des moments qui étaient très forts, notamment hier. Je pense aux 3 accusés qui comparaissaient libres sous contrôle judiciaire, qui étaient chaque jour sur leur strapontin devant le box vitré, et chaque jour sur les marches du palais, il y avait des familles de victimes, des victimes elles-mêmes qui venaient les saluer, qui avaient un mot pour elles, pour eux. Ils ont créé des liens comme ça. Ils sont même allés au Bataclan avec certaines victimes. C'est des choses qu'on n'a pas vues hein, dans d'autres procès, ou en tout cas on n'est pas forcément au courant. Hier soir, quand on a compris qu'ils ne retourneraient pas en prison, même s'ils ont été condamnés, certains ont pleuré et certaines familles ont fait la queue une fois que l'audience était levée pour les saluer, pour leur faire une tape sur le dos. Enfin voilà, il y a vraiment aussi ces liens qui ont existé pendant 10 mois. Ça crée peut-être, c'est la durée aussi qui crée ce type de lien entre accusés et partie civile, et ça c'était assez touchant.
Arthur Desnouveaux, vous voulez commenter ce que vient de raconter Gladys?
C'est un récit extrêmement exact de ce qui s'est passé, et après les 3 condamnés parce qu'ils ont été condamnés libres, sont venus à la brasserie en face du palais de justice avec tout le monde. Et ça s'est très bien passé. C'est des hommes libres. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. La justice a jugé. Ils avaient le droit d'être là avec nous. Et donc, ils ont été accueillis au sein de la société. Ça nous paraît normal.
Ah oui.
Pas facile, c'est mais normal.
Particulier.
Bah, je crois pas. Je crois que c'est le sens d'être en liberté. La liberté, il n'y a pas de limite. Soit ils ont le droit d'être là, soit ils n'ont pas le droit. Et à partir du moment où ils ont le droit, on l'accepte.
Et ce sont des hommes, effectivement. Ils ont été jugés comme tels. Ils sont, aux yeux de la loi, libres. C'est ce qu'a décidé là. La justice, c'est fort ce que vous nous racontez là.
Et pour être clair, je pense... Maître Méchant. Je ne veux pas parler à la place des victimes, bien sûr, mais... Je crois que même pas, parce qu'évidemment, comme le disait Arthur Desnouveaux, chaque partie civile, chaque personne a son avis, mais je crois que même parmi les parties civiles les plus virulentes qu'il a pu y avoir durant cette audience, j'ai pas vu de regret que ces personnes-là ne retournent pas en prison. Sincèrement, j'ai vu aucune position disant il aurait fallu qu'ils retournent en prison. Je parle des gens qui ont assisté au procès, qui connaissent le dossier, etc.
Je fais une petite incise,
oui.
Parce que parmi les condamnations hier, il y a quelqu'un qui a fait 6 ans de détention provisoire et qui a été condamné qu'à 2 ans.
On va en parler juste après.
Si oui. Voilà, et on a appris aujourd'hui qu'en fait, il avait été mis en centre de rétention, plutôt qu'on le laisse rentrer chez lui avec son épouse. Et ça, par exemple, je suis sûr que ça révolte l'immense majorité des parties civiles.
C'est Farid Karkash, condamné à 2 ans de prison, non pas pour terrorisme, c'est le seul qui n'a pas été condamné pour terrorisme. Il faisait partie des 20 accusés, 6 présumés morts, en tout cas, qui n'étaient pas dans la salle, et 14 qui étaient présents. Lui était présent, condamné à 2 ans de prison, c'est le seul qui a été condamné pour des faits qui ne sont pas du terrorisme, mais pour fourniture de faux papiers. Il a passé 5 ans et demi en prison, et effectivement, il a été placé en centre de rétention, et il devrait être expulsé du territoire français.
Mais il n'a pas été condamné à une expulsion du
territoire. Il n'a pas été condamné à une obligation de quitter le territoire.
Oui, il n'a pas d'interdiction de quitter le territoire. Ouais. Il a eu une obligation de quitter le territoire qui lui a été délivrée, mais de manière un peu artificielle durant sa détention. Mais ce qui est totalement absurde. Alors, c'est à la fois absurde et scandaleux. C'est-à-dire qu'on a déjà quelqu'un qui est condamné seulement, entre guillemets, à 2 ans, alors qu'il a fait 6 ans. Donc déjà, il y a une différence. Il a fait 4 ans de trop. Clairement, la cour d'assises dit, Monsieur Karkash, vous avez fait 4 ans de prison
en trop. Il va être indemnisé pour ça.
Il ne va pas être indemnisé. Impossible. Parce qu'en fait, on est indemnisé de la détention provisoire uniquement quand on a été relaxé ou acquitté, ce qui n'est pas son cas. Donc, il ne pourra même pas être indemnisé de cette détention. Et alors que, évidemment, il n'avait qu'une seule envie, c'était de retourner en Belgique, puisque c'est là qu'il habite, c'est là que sa famille est, c'est là que ses enfants sont. Au lieu de le laisser retourner en Belgique, il y serait déjà, en fait. Bon. Il y serait arrivé dans la nuit.
La France signifie qu'il n'est pas le bienvenu et que l'OQTF doit être appliqué.
La France l'enferme, en fait. Parce que le centre de rétention, c'est ça. Ça n'a pas l'air de vous déranger. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a déjà fait 4 ans de détention en trop. Et au lieu de lui dire, écoute, ok, retourne en Belgique, de toute façon, tu y seras demain matin, il n'y a pas de problème. Non, on va vous placer en centre de rétention. Vous savez combien de temps ça peut durer, un centre de rétention pour en matière terroriste? Alors lui, il n'est pas en matière terroriste, donc du coup, ça ne s'appliquera pas. Mais ça peut durer, c'est plusieurs dizaines de jours. C'est une période qui est très longue.
Mais ça ne s'appliquera pas à lui, oui.
On ne sait pas, en fait.
Non, puisqu'il n'est pas condamné pour terrorisme.
Pour terrorisme, c'est plus de 200 jours.
Oui.
Là, en matière non terroriste, c'est moins. Mais c'est quand même une période qui est très longue. Et donc évidemment que c'est en réalité injuste, et je sais pas si c'est de la bêtise de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine, puisque c'est la préfecture qui décide de ça, ou si c'est juste de la méchanceté gratuite, j'arrive pas à savoir, mais je suis un peu atterré.
Faudel nous appelle, éducateur spécialisé à Bandol. Bonjour Faudel. Merci de nous appeler au 3921. Vous occupez de primo-délinquants, éducateur spécialisé dans ce domaine. Merci d'avoir appelé le 3921 et de passer à l'antenne d'Europe Midi sur Europe 1. Quel est votre point de vue, votre avis, votre opinion sur le verdict rendu hier soir? Est-ce que Faudel est avec nous? Visiblement.
Vous m'entendez?
Oui, Faudel. Alors, oui, voilà, vous étiez près du poste de radio. Voilà, bonjour Faudel, merci d'être avec nous. Je disais que vous êtes éducateur spécialisé, vous occupez de primo-délinquants, et vous êtes à Bandol.
Absolument, c'est exactement ça.
Bonjour Faudel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous dites « justice a été rendue ».
Absolument, nous pouvons être fiers de la justice qui a été rendue, bien évidemment, conformément à notre état de droit qui est le nôtre, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais bien évidemment, on peut toujours considérer sur le coup émotionnel que ce n'est pas toujours assez, mais je pense que la justice a été à la hauteur, bien évidemment. Mais aussi, ceci étant dit, que ce problème nous est arrivé, est tombé du coin de nez auquel nous attendons plus à ce qui nous est arrivé, en fait, c'était incroyable. Ceci étant dit que le rôle de renseignement, il est vraiment à pointe du doigt, malheureusement. Donc moi, je pense que si nous avons eu ce genre de choses, c'est parce que nous sommes quelque part faibles. Nous avons été défaillants sur le plan du renseignement. Et Dieu sait que aujourd'hui, notre société, où il y a des extrêmes tensions qui se développent de plus en plus, des comportements de rejet de notre histoire, de notre identité, de notre culture, auxquels il faut répondre dans l'immédiat. Il ne faut pas laisser la situation telle qu'elle. Ce qui s'est passé est passé. Certes, j'ai une profonde pensée aux familles, mais la justice a été rendue conformément à notre état de droit. Ceux qui parlent de la peine de mort, je pense que l'abolition de la peine de mort dans notre pays est quelque chose de très honorable, en fait. Nous pouvons être fiers de l'abolition de la peine de mort,
évidemment,
parce que ça montre combien nous tenons à la vie, combien nous respectons la vie, combien nous aimons la vie, et ces lâches assassins, et ils ont eu leur réponse par le code du droit de notre pays qui est à la hauteur. Mais je voudrais toujours, excusez-moi, de m'extrapoler un tout petit peu sur toujours le plan de renseignement. Vous savez, moi je suis toujours partisan de ce qu'on appelle l'intelligence expérimentée. Nous avons des hommes qui ont naturellement balisé le chemin, qui ont naturellement travaillé dans ce sens. J'ai une profonde pensée en ce moment au grand soldat de tous les temps qui est le général Marcel Bijard, où ses méthodes sont enseignées dans plusieurs universités de guerre du monde les mieux connues. Et malheureusement, nous n'avons pas suivi peut-être certaines choses, certaines méthodes.
On extrapole un petit peu, effectivement. Merci beaucoup, Faudel. En tout cas, merci de nous avoir appelés au 39-21. Merci d'avoir été en direct avec nous. Restez bien sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause pub. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi spécial verdict du procès des attentats islamistes du 13 novembre. On y revient avec Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, avec Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, rescapé du Bataclan, et avec Maître Martin Méchin, avocat d'un des accusés condamné à 10 ans de prison pour avoir recherché des armes pour les terroristes. Arthur Desnouveaux, je le disais à l'instant, rescapé du Bataclan. On est le 30 juin, au lendemain de ce verdict. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Comment est-ce que vous vous sentez au lendemain de l'énoncé de ce verdict, de la fin de ces 10 mois de procès?
Plus le temps passe dans cette journée, plus je me sens serein, en fait. Je suis content que la justice soit passée, je suis content de ne plus avoir le procès à faire, ni à vivre au jour le jour. Ensuite, l'association que je dirige a décidé de se donner une ligne d'horizon claire, qui est de se dissoudre. Au plus tard, 10 ans après les attentats, en se disant qu'on a créé cette association pour être ensemble, pour aller mieux, pour répondre à un certain nombre d'enjeux, de mémoire, d'indemnisation et de justice, et qu'une fois qu'on a fini ce programme-là, il est temps de casser la béquille ou d'enlever la béquille qu'on a créée, parce que l'idée, c'est quand même toujours de dire « j'ai été victime » et pas « je suis victime ». Et donc, ça trace une ligne de travail pour les années à venir qui me paraît intéressante et qui me paraît surtout assez exigeante pour que ça nous occupe.
Est-ce que vous allez continuer à avoir d'autres victimes ou dans les prochaines années? Donc, les attentats ont lieu il y a 7 ans, hein, en 2015, donc vous donnez encore 3 ans. Comment vous gérez ça?
On se donne 3 ans parce qu'on a quand même des projets en cours. Il y a un musée mémorial du terrorisme, il y a un jardin créé par la ville de Paris, donc ça, on est partenaire de ça. La justice n'a pas complètement terminé son travail, a priori, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'appel, mais on a un accusé qui a été jugé in absentia, qui va revenir de Turquie, parce que la Turquie n'a pas voulu le remettre à la France pour le procès, et lui, vu la peine qui s'est prise, je serais étonné que lui ne demande pas un procès. Donc il y aura au moins un autre procès, donc il faut encore être là 3 ans, mais dans ces 3 ans, on est là pour fermer petit à petit toutes les portes, et se dire, attention, que la communauté des gens impactés par ces attentats continuera d'exister, mais qu'il n'y a peut-être pas besoin d'une association, d'une institution.
Est-ce que vous craignez qu'on finisse, non pas par oublier ce qui s'est passé, mais par ranger ce drame dans un tiroir? Le procès a eu lieu, les 10 mois ont eu lieu. Quel est votre sentiment?
Est-ce qu'on le rangera quelque part et est-ce que c'est à craindre? Je ne sais pas. Nous, on a craint d'autres choses toutes ces années. On a
je ne vais pas dire oublier, parce qu'on n'oubliera pas. Bien. Évidemment qu'on n'oublie pas 130 morts, 131, 130. Mais le temps fait son œuvre. C'est la vie. Donc, est-ce que vous le craignez?
Avant ce procès, on avait déjà beaucoup oublié le Stade de France, un certain nombre des terrasses. Et donc, de toute façon, il y a un oubli partiel qui se fait. Et ça, en revanche, c'était très mauvais parce que ça rajoute de la douleur à la douleur. Et c'est ça qui donne le stress post-traumatique. Ensuite, que la mémoire collective arrive à se détacher des faits comme les mémoires individuelles, ça paraît assez logique. Voilà, il faut l'accompagner, mais c'est encore une fois là que le fait qu'un musée soit créé, qu'un lieu de commémoration existe dans Paris, fait qu'on va aboutir à une situation stable de mémoire. Et ça, il va aussi falloir que nous, on apprenne à l'accepter. On a notre part de travail à faire là-dessus.
Gladys Laffitte, les réactions des victimes sont très différentes les unes des autres. Au début de l'émission, Arthur Desnouveaux nous disait il y a 2500 parties civiles, il y a 2500 réactions.
Je pense qu'Arthur Desnouveaux, il a raison.
Vous voyez différents blocs.
C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parties civiles. Moi, celle que j'ai vue pendant 10 mois, il n'y avait pas 2500 parties civiles. Il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient le procès à la web radio, qui ne vivent pas à Paris, qui ne sont pas parisiens.
Ouais.
Des familles notamment. Et il y en a qui s'expriment sur Twitter ou dans les médias. Et puis, il y a les autres qui sont silencieuses. Celles aussi qui ne sont pas du tout venues au procès. Celles qui ne veulent pas en entendre parler. C'est compliqué d'avoir un sentiment global hors ce qu'on a vu hier. Alors oui, hier, effectivement, il y a eu quelque chose de commun, en tout cas, cette émulation, comme disait Arthur Desnouveaux aussi, aux deux palais en face. Donc, mais c'était pas que des victimes, c'était, comme on le disait, des condamnés, des avocats de la défense, des avocats des parties civiles, des journalistes. On a fait partie aussi de cette communauté en étant observateur et de rendre compte comme ça pendant 10 mois. Donc oui, il y a autant de réactions que de parties civiles, ça c'est une certitude.
Arthur Desnouveaux.
Et juste pour préciser, moi j'avais 29 ans, je suis sorti de la blessée psychologiquement. On ne peut pas comparer ma situation à celle de parents endeuillés. Eux, ils ont pris une peine à vie. Et eux, je pense que le chemin qui leur reste à tracer est très différent. Et donc ça, déjà, forcément, ça nous sépare les uns des autres. On est liés par le drame, mais ils ont des attentes de l'avenir qui sont différentes des miennes.
Maître Méchin, comment vous l'avez vécu humainement ce procès hors norme, on l'a dit mille fois, mais hors norme par sa durée et puis hors norme par le nombre de victimes, vous qui avez défendu un des accusés. Vous aviez des gens, des pères endeuillés, des mères endeuillées, des frères, des sœurs, des amis en face.
Ça a été évidemment une expérience très forte humainement. D'abord dans la relation que nous, on a pu nouer avec notre client, avec l'accusé qu'on voyait tous les jours à l'audience, avec qui on pouvait échanger, mais bien au-delà de ça, parce que ça c'est plutôt habituel, on va dire, même si là c'était particulièrement long. Mais au-delà de ça, on a eu quand même, en tant qu'avocat de la défense, beaucoup d'échanges, soit avec des avocats de partie civile, ça encore c'est habituel, mais également, et c'est déjà moins habituel, avec des parties civiles elles-mêmes. C'est-à-dire des personnes qui sont venues nous voir parfois après une intervention, après... qui sont venues nous voir en nous disant « Bonjour maître, je voulais vous remercier d'avoir dit ça » ou au contraire « Vous avez dit ça, mais quand même c'est dur à entendre ». Et en fait, on a échangé. Et ça, c'est quelque chose de fort. Alors ça ne peut se faire que sur le temps long, évidemment. Sur un procès de 3 jours, on n'a pas le temps. Sur un procès de 10 mois, il y a des liens qui se sont noués. Et c'était quelque chose qui était, très fort. Humainement, on ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est une certitude et j'espère que ça a pu peut-être faire du bien aussi aux victimes de pouvoir parler aux avocats, de pouvoir parler à certains accusés, puisque les détenus, non, elles n'ont pas pu leur parler. Mais si, d'ailleurs, le jour avant que la cour se retire pour délibérer, certaines parties civiles ont demandé l'autorisation de venir dire 2-3 mots à chacun des accusés qui étaient dans le box. Oui. Et donc, on a quelques parties civiles qui sont venues défiler devant le box et c'était que des mots gentils. Hein. Il y a eu aucune agressivité, aucune méchanceté, aucune vindicte, aucune vengeance. C'était vraiment quelque chose de positif.
C'est ce que vous disiez, Arthur Desnouveaux, c'est que vous avez laissé à la justice la responsabilité de juger, d'avoir... pas de la haine, mais de juger ces accusés.
Moi, je vais reprendre une expression que l'avocat de Life for Paris a utilisée dans sa plaidoirie, que je trouve très belle, c'est de dire que le courage, c'est ce qu'on oppose à la peur, et que la justice, c'est ce qu'on oppose à la haine. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Merci beaucoup. Merci, Arthur Desnouveaux, d'être venu dans Europe Midi. Président donc de l'association Life for Paris, rescapé du Bataclan, maître Martin Méchin, avocat d'un des accusés. Et puis merci Gladys Laffitte,
merci.
La rédaction et du service police-justice d'Europe 1. Et merci à vous tous d'avoir appelé le 3921 et d'être derrière votre poste de radio.